Voilà, nous voici repartis pour échanger, discuter, refaire le monde, débattre, se contester, témoigner, voilà, discuter tout simplement. Nous aimons faire ça et nous avons installé, comme tous les mois maintenant, notre studio à l'Espace Jeune de la Madeleine à l'occasion de cette fameuse prise d'antenne. Je le disais il y a le mois dernier, c'est un retour sur les ondes de prise d'antenne. L'objectif étant de débattre, d'échanger, d'écouter la parole des jeunes en particulier, d'entendre en fait tout ce qu'ils ont à dire sur le thème du jour. Le thème du jour, c'est « Je travaille donc j'existe ». J'insiste sur le point d'interrogation que vous n'avez peut-être pas vu à l'oral, mais il y a bien un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Je travaille, donc j'existe, point d'interrogation. Ce sera l'objet des échanges, des compléments, de tout ce qu'on veut bien raconter autour de ça, justement. J'invite d'ailleurs les jeunes éventuellement à se rapprocher de nous. Il y a de la banquette très confortable. Vous pouvez vous rapprocher, bien entendu. De toute façon, nous vous solliciterons, quoi qu'il arrive. Pour radiopropulser cette émission jusqu'aux oreilles de nos chers auditeurs, c'est une équipe de choc encore qui aura travaillé d'arrache-pied à la conception de cette émission, et en particulier du côté de l'Espace Jeune, eh bien nous avons Bayal, Charlie, Inès et Anissa qui ont œuvré, notamment sur la partie micro-trottoir que vous pourrez découvrir durant cette émission. Bien entendu, comme à chaque fois, nous aurons la complicité de Pierre et de Anne-Laure qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Pour l'équipe principe actif, nous avons donc Vinci qui sera à la réalisation et qui la partagera avec notre ami Pignon. Au micro HF, c'est notre ami Jean-Jean.
C'est trop bien la radio !
Principe actif, 102.4 FM.
Je travaille donc j'existe, ce sera l'objet des échanges qui nous attendent sur l'heure et demie qu'il y a devant nous. Pour échanger également, nous nous sommes équipés d'un spécialiste de ces questions-là. Voilà, je vous en prie, emparez-vous d'un micro, tirez sur le câble et vous verrez bien jusqu'où ça nous mène. Ça arrive jusqu'à vous et c'est plutôt une bonne chose. Nous avons Olivier Dubois qui est ergologue, qui s'est posé toutes ces questions autour du travail. Juste un petit instant pour s'arrêter deux secondes. Olivier, bonjour à vous déjà.
Bonsoir.
Et la première question, histoire qu'on soit bien au clair, c'est quoi un ergologue, tout simplement?
Alors, c'est quoi l'ergologie? Parce qu'un ergologue...
Oui, alors, l'ergologie, pardon.
Donc, l'ergologie, c'est en pratique une méthode d'analyse pluridisciplinaire des situations de travail et de l'amélioration de ses conditions du travail. Et en théorie, c'est la philosophie du travail et de l'activité.
C'est comment prendre un peu de recul sur un sujet dans lequel on a tous le nez dedans pour faire de la réflexion et peut-être apporter des changements dans la façon d'aborder cette question de travail.
Dans sa partie théorique, oui. Mais c'est aussi une méthode très...
Très pratique.
Très pratique, très technique d'analyse et d'amélioration des conditions de travail.
Je proposerais bien, en début d'ouverture, comme ça, de solliciter un petit peu le public qui a ici autour d'une question très très simple, très basique, qui est pour vous, c'est quoi le travail? Tout simplement, c'est quoi le travail et à quoi ça sert? Alors on peut faire appel pour amorcer cette série de réflexions, peut-être à nos complices. Comme je disais, j'ai Pierre juste à côté, notamment, qui a été repéré comme un complice, hein. Très clairement, Pierre, vous êtes repéré comme un complice. Pour vous, c'est quoi le travail et à quoi ça sert?
Bonsoir JC. Pour moi, c'est quoi le travail? Je dirais que le travail aujourd'hui, c'est vivre.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est subvenir à mes besoins. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais en priorité, je dirais, c'est subvenir à mes besoins, c'est pouvoir manger, m'habiller, aller au travail. Donc on fait la boucle, quoi, tu vois.
C'est ça, je gagne de l'argent pour aller au travail. Là, dans ce que vous me racontez, travail, ouais.
c'est ça.
Donc il y a cette notion économique qui est un premier point.
Et ouais, et après je rajouterais, bien sûr, ça contribue peut-être à mon bonheur parce que financièrement, voilà, je peux me permettre quelques petites choses, bien sûr.
Et le travail en lui-même, je parle pas des revenus du travail, mais le travail en lui-même contribue-t-il à votre bonheur, Pierre ?
Pour moi, oui. Ce que je fais, ça me plaît. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde aujourd'hui ? Je me pose la question.
Et ben, c'est une question que nous allons explorer, ouais. Justement, de voir comment chacun d'entre nous voyons cette question de travail. J'ai envie de me retourner vers Bayal également sur cette question de travail. Voilà, ce sont nos complices que nous avons autour du plateau et puis pour chauffer l'échange et le débat sur la question. Pour vous, pour toi Bayal, on va se tutoyer quand même, hein, Pierre Bayal quand même, faut pas exagérer. Pour toi Bayal, c'est quoi cette notion de travail ? C'est quoi le travail et à quoi ça sert ?
Alors bonjour, bonsoir déjà. Et moi je pense que le travail c'est un lieu différent de chez soi, qui permet de s'épanouir, de bien sûr de subvenir aux besoins. Comme l'argent, c'est principalement ce qui nous motive pour justement aller au travail. Mais moi, je pense que c'est surtout un besoin de... comment dirais-je ça ? Un besoin d'autre chose. C'est-à-dire, c'est une autre recherche de ce qu'on a habituellement chez nous, quoi.
Ouais, c'est un changement, d'horizon,
ça, un changement d'horizon. Même si après le travail, on peut faire un travail pendant 10, 20 ans, 30 ans, mais on a cette routine-là, mais elle nous fait plutôt du bien. Parce que c'est par exemple, si je vais au travail, c'est quelque chose de différent de chez moi. Je me dis, bah tiens, je vais aller au travail, je vais faire quelque chose de différent. Voilà.
Très bien. Au niveau de la salle, je serais quand même assez curieux de collecter quand même dans la salle un petit peu cette notion de travail, et notamment chez les plus jeunes. Alors il n'y a pas de mauvaise représentation, hein, bien entendu, si ça, il n'y a pas de mauvaise représentation du travail. J'aurais bien sollicité vos représentations du côté des jeunes, je sais pas. Pas forcément, ok, ça viendra au bout d'un moment éventuellement. Mais si on a qu'on des représentations du travail, on n'est pas obligé d'avoir déjà travaillé d'ailleurs pour avoir une représentation du travail. Ouais.
D'après vous, c'est quoi le travail ?
Ah, il y en a qui partent se cacher. Non, mais c'est normal, ça fait un peu peur au début, mais rassurez-vous, ça se passe toujours très bien. Au bout d'un moment, on aura de l'échange. Vous, Olivier, voilà, comment vous définissez, vous, cette notion de travail ?
Alors de façon multiple, le travail, ce qu'on peut définir par le travail, ça dépend beaucoup de contexte. Enfin, ça dépend des contextes géographiques, culturels, historiques. On n'a pas défini le travail de la même façon. On ne parle pas forcément tous de la même chose que lorsqu'on pose le travail. On parle du travail, le fait d'accoucher, c'est un travail, par exemple. On parle du travail d'une mère de famille, donc on est loin de la rémunération. Donc le travail, avant tout, il se situe. Et il se situe dans l'activité, donc un acte de vie, l'activité. Donc c'est quelque chose de vivant dans un grand concept d'activité, c'était quelque chose où les frontières sont très souples, malléables et très poreuses. Rentre des activités diverses qui peuvent s'apparenter au travail en sortir. Mais je crois que la représentation dont on entend plus souvent parler, c'est ce qu'on appelle le travail stricto sensus, c'est-à-dire une activité rémunératrice dans une société marchande et de droit.
On a évoqué justement cette notion de travail pour gagner de l'argent, pour de l'autonomie, pour tout un tas de choses. Lors de mon dernier passage sur l'espace jeune, il y a une conversation un peu qui a fusé comme ça, et on se posait la question de ce qu'était un salaire décent. À combien est-ce qu'on chiffrait ce qu'on appelait un salaire décent ? Et ça dépend forcément du rapport qu'on a soi-même au travail, l'expérience qu'on en a ou pas. Je sais pas s'il y en a qui ont des idées de ce que peut être un salaire descend, solliciter peut-être un peu la jeunesse. À partir de combien on est content de ce qu'on gagne ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent nous dire à partir de combien est-ce que c'est convenable comme salaire ?
C'est un bon salaire.
À partir de quoi ça vaut le coup d'avoir été bossé ?
Combien ?
1200 euros.
1200 euros.
J'ai 1200 euros ici.
Il y a un côté juste prix. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres échelles de valeur sur le... C'est combien un salaire décent ? C'est combien un salaire décent ?
C'est une loi 19 piges, on
leur dit pareil. Pas trop d'idées ?
Moi je dirais 2000 euros.
2000 euros ? Très bien, 2000 euros. Monsieur, pardon, ouais, si on pouvait revenir. 2000 euros, ça intègre quoi? Ça intègre le confort de vie? Ça intègre le minimum pour être tranquille dans la vie? Ça intègre quoi?
Ouais, avec 2000 euros, on vit bien, quoi.
On vit bien?
Voilà, on n'a pas besoin de plus, quoi.
Et ça, peu importe le travail, c'est le minimum?
Ouais, minimum 2000 euros.
Voilà, et peu importe le boulot fait?
Minimum, hein. Le ouais, max, d'accord. C'est 2005.
Maxi 2005. Ah non, il n'y a pas de maxi, il faut pas mettre de maxi quand même. Ah. En tout cas, le minimum,
2000 euros.
Voilà. Vous travaillez, vous?
Non.
Non, c'est les non, représentations. Chômage, ouais. D'accord. Chômage. Vous avez déjà une expérience professionnelle ou pas?
Non, pas encore.
Pas encore, d'accord. Non. Donc c'est le truc de se dire, voilà, 2000 euros, je serai bien quand j'aurai ça. Vous intégrez le fait que, enfin, dans votre vision du monde, c'est dès le début 2000 euros ou ça peut être quelque chose d'évolutif dans votre esprit en tout cas?
Non, 2000 euros, c'est bon.
Ouais, mais dès le début?
Dès le début, ouais.
Dès le début, ok. Le début. Eh ben, c'est une revendication.
Dès le faut début, pas... 2000 euros.
Très bien. Très bien. Bah, merci de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres représentations de ce que serait un salaire correct? Je sollicite peut-être, je me permets Lionel, parce que bah, vous avez une expérience de travail, vous avez des revenus, et je pense que quand on travaille, on voit les choses un peu autrement, non? Ah, vous avez la voix cassée, bien entendu. Allez, dites-nous, c'est combien un salaire décent pour vous, Lionel? Ah, vous voulez pas nous le dire? Bon, bah, c'est pas grave. Est-ce que y a...
Moi, j'ai une question pour un jeune, là, justement. C'est combien un salaire décent pour lui, pour Augusto, celui qui a le bonnet gris, s'il vous plaît? Voilà.
Augusto, c'est ça?
Ouais.
C'est...
Bah, ça dépend. C'est quoi, vous appelez un salaire décent?
Je crois que c'est ça comme question.
Ouais, je crois que... Non, justement, c'est vous pouvez décortiquer la réponse en fonction de ce que vous trouvez. Par exemple, avec une famille, avec pas de famille, avec l'expérience, pas d'expérience. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment vous qu'on questionne là-dessus, quoi.
Bah, pour moi, ça n'existe pas parce qu'un salaire décent, ça dépend de la personne et de la situation.
D'accord. Par exemple, pour quelqu'un qui vit seul, est-ce que vous avez une idée, par exemple?
Pour quelqu'un qui vit seul, non, quelqu'un qui vit seul, je dirais 2000 euros, 1700.
1700, 2000 euros à voilà. Peu près. Et du coup, ma question suivante, vous la voyez venir, hein, c'est, et du coup, des gens qui vivent en couple, par exemple, est-ce que c'est le même montant, c'est plus ou c'est moins?
Bah,
pour la décence.
Vivent en couple avec un enfant, deux enfants, parce que ça dépend.
C'est vous qui me dites.
Bah, avec un enfant, je dirais à peu près entre eux deux, il faut que ça, qu'il y ait un revenu environ de 3000 euros pour deux personnes plus un enfant.
D'accord. Et ça, là, on est dans la décence. Il y a de quoi vivre sur ces. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que d'autres ont d'autres visions de cette question du salaire décent? Parce que c'est clairement des sujets qui sont au cœur du débat. C'est quoi la décence d'un salaire? Voilà, si quelqu'un veut interagir...
Brian, tu veux réagir?
Sur la décence du salaire, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu plus tard. Cette notion de décence,
bah,
elle est...
Bah, c'est intéressant ce qu'il dit là.
C'est intéressant ce qui... rapprochez-vous d'un micro. C'est...
Brian, s'il te plaît.
Ah, dites-le.
Faut que je passe
en
TPMP si vous voulez.
Vas-y, t'inquiète pas, tu passeras en TPMP.
C'est la première marche aujourd'hui avant la gloire peut-être. Non, pour le coup, si vous aviez un truc intéressant, n'hésitez pas à le partager.
Il a dit une bonne chose.
Mon interview vaut 2000 euros déjà. Ouais,
c'est la décence. C'est la décence, c'est ce qu'on vient de dire. Par contre, il faut répondre pendant un mois. On avait dit que c'était la décence sur un mois.
Si je réponds pendant un mois, vous allez me faire.
Donc, ouais, cette question de décence, Olivier, elle est essentielle, j'imagine, dans la question du revenu.
Dans la question du revenu, non, aussi dans la question.
Ouais.
Et aussi dans la question de la nature du revenu, parce qu'on parle beaucoup de salaire. Comme si c'était la voie sacrée, alors que les salariés sont un peu moins de 80% des gens qui travaillent aujourd'hui. Il y a tous les travailleurs indépendants, les patrons, qui peuvent être tout petits, hein, les professions libérales. Donc, ouais, qu'il y a, dans la représentation de comment on travaille, il se dessine aussi quelque chose de très jeune. C'est est-ce qu'on va être destiné à être salarié ou est-ce qu'on a d'autres possibilités dans ce à quoi on peut prétendre. Après, la question du revenu, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est la confrontation entre ce que je vaux dans les premières réponses, moi je voudrais ça et je voudrais ça à travailler, ce qui est un peu la donne qu'on a aujourd'hui, hein, c'est tel diplôme ramène tel... tel revenu ou tel salaire ou tel diplôme ou telle rentabilité provoque tel revenu et puis les besoins. Ça je trouve ça très très intéressant, c'est qu'effectivement on se pose la question de la décence non pas en fonction de qu'est-ce qu'on vaut sur le marché du travail mais de quoi on a besoin pour vivre et qu'effectivement on n'a pas forcément besoin des mêmes choses, de gagner le même argent si on est à plusieurs à ramener du revenu, si on a des enfants bah forcément il faut plus, ceci dit quand on est tout seul bah on a des charges majorées puisqu'on les partage avec personne, donc ça c'est très intéressant. Après, les salaires décents, est-ce que le SMIC est décent? Il est environ à 1100 euros. Le salaire moyen est double, il est environ à 2250 euros. Ça, je pense que les gens qui le vivent peuvent vraiment apprécier la différence entre 1100 euros et 2250. Et 2250, c'est le salaire moyen, on n'est pas riche.
Donc finalement, on n'était pas loin d'une réalité de moyenne statistique presque sur les témoignages que nous amenaient les jeunes. Bah, Yael, Pierre, vous, il y a un questionnement comme ça sur la décence d'un salaire ou pas?
Non, je le rejoins. Ça dépend de la situation, je pense. Mais
il y a quand même une somme à partir de laquelle on se dit c'est la base.
J'ai l'impression que en dessous de 1100 euros, c'est très compliqué pour tout le monde quand on a un loyer et des charges à payer. Donc j'aurais tendance à dire qu'en dessous, ça commence à être quand même décent.
Au-dessus?
En dessous.
En dessous de quoi?
En dessous de 1100. En dessous du SMIC.
D'accord, ouais, c'est plus très acceptable parce que d'ailleurs, voilà, ça va être
pour toute
compliqué.
Personne ayant des charges, hein, voilà.
Ouais, bah bien sûr, bien sûr. Oui, si c'est de l'argent de poche parce qu'on vit chez papa et maman, c'est plutôt pas mal déjà.
Bah oui, forcément, ouais.
Mais effectivement, ouais, quand on a la marmite à faire bouillir, comme on dit, il faut un peu plus quand même. Hein.
Ouais.
Ce serait plutôt pas mal. Bah, il y a un avis sur la décence d'un salaire.
Non, moi je rejoins Pierre, je dirais que tout dépend de la situation. Ça peut être, on vit seul, on vit chez les parents, on est en couple, on a plusieurs enfants. En fait, tout dépend de la situation. Après, pour une personne seule, bien sûr, ça ne sera pas un très gros revenu. Quand on est en couple à deux, oui, il faut que ça soit très, très élevé. Avec un enfant, là, on a beaucoup plus de charges, donc ça revient beaucoup. Mais moi, personnellement, non, j'ai pas de salaire fixe dans ma...
Dans la tête, on arrive à ça. Je vous propose d'écouter un tout premier micro-trottoir qui va peut-être faire le lien sur un autre type de questionnement autour de la question du parcours, entre les études et le métier, où est-ce qu'on en est arrivé? Est-ce que c'est un chemin rectiligne, je fais des études pour un métier, ou est-ce que finalement, entre le plan initial à l'école et puis la dure réalité professionnelle, il y a un écart? Je vous propose d'écouter un premier micro-trottoir tourné par Bayal, Inès et Anissa. Bayal, ça a été tourné où ce micro-trottoir?
C'était au centre-ville, après on était au centre commercial de Carrefour.
Très bien. Voilà. Eh bien, on écoute justement la parole que vous avez collectée.
Alors, première question. Quel lien y a-t-il entre votre parcours scolaire et votre métier actuel?
Toute la formation générale, je peux dire, je suis enseignant. Voilà. Par contre, j'ai changé d'orientation pour des raisons de modèle. C'est-à-dire que pendant mes études d'électronique, j'ai travaillé en tant que surveillant, j'ai vu des enseignants et ça m'a donné envie de devenir enseignant dans le primaire. Voilà.
Bien, après ma troisième, j'ai directement fait mon CAP esthétique et mon BP esthétique. Donc, et je suis esthéticienne aujourd'hui. J'ai jamais rien fait d'autre.
Alors mon parcours scolaire, il a été que dans la coiffure, donc j'ai passé tous les examens qui existent en coiffure, donc CAP, mention, brevet professionnel, brevet de maîtrise, et puis voilà.
Aucun, parce que j'avais, quand j'étais plus jeune, j'avais des métiers, ouais, voilà, j'avais des métiers que je voulais faire, et puis et après ça a complètement changé, puisque quand on se rend compte de la réalité, il y a des choses qui sont faisables, d'autres non, donc ça n'a rien à voir.
J'ai fait un CAP BEP secrétariat comptabilité, après j'ai fait un BTS et aujourd'hui je travaille dans l'éducation nationale. Je suis assistante de gestion.
Actuellement je travaille dans la coiffure et j'ai fait un bac pro secrétariat, donc rien à voir.
C'était donc bien les passants qui en fait ont répondu aux questions de nos reporters de choc, Inès, Anissa et Bayal. On se rend compte quand même qu'il y a un écart régulier entre ce à quoi l'école me destine, ou en tout cas ce dans quelle voie scolaire je me lance pour a priori me préparer à la vie professionnelle, et finalement l'orientation professionnelle, il y a pas mal d'écarts quand même, enfin souvent en tout cas il y a pas mal d'écarts. C'était clairement ce que vous avez collecté comme parole, cet écart entre le parcours et puis le métier finalement.
Alors principalement c'était les adultes qui partaient sur un parcours scolaire qui était différent du métier, mais je pense que le problème est surtout que à partir du collège on se base surtout sur les capacités qu'on a, sur le travail demandé, et ensuite on nous dirige vers quelque chose sur quoi on est bon, mais pas sur quelque chose qu'on veut. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit, mais
totalement, oui, c'est voilà. Très clair, oui.
Et je pense qu'il est là le problème, parce que déjà, premièrement, c'est dur de détecter chez un jeune ce qu'il veut faire plus tard, et deuxièmement, on nous dirige surtout vers des orientations qui sont pas les nôtres. Il est là le gros souci, je pense. Et moi, ça que je l'ai réalisé quelques années après, j'étais, ils m'ont mis sur quelque chose, j'ai dit bon, ok.
Ils t'ont mis sur
ce que je
veux
faire. Moi, c'était sur la comptabilité parce que j'étais assez pas mal en maths. Donc voilà, mais après, au final, non, c'est pas du tout ce que je voulais. J'arrivais en BTS, je voyais pas du tout ça comme ça. Et ensuite, j'ai décroché. Voilà.
Ça voilà, on te préparait à de la comptabilité et finalement l'animation a été le choix
mieux.
Là.
C'est beaucoup mieux.
Bah ouais. Ouais, ouais. Sur je me retourne encore vers les jeunes. Ouais, vous aurez compris que la jeunesse, je vais tenter de la solliciter, de la questionner et d'obtenir des réponses. Sur cette notion de parcours scolaire, est-ce que du côté des jeunes, il y a cette sensation qu'on choisit un métier ou finalement on se laisse guider par les résultats, les orientations proposées par les enseignants, comment ça se passe du côté des jeunes? Voilà, ils retournent tous la tête, hein, comme si on m'entendait pas forcément. Mais du coup, y a une cohérence avec l'orientation scolaire et finalement le métier. Bon, pas forcément pour le coup. Bon, on va laisser chauffer aussi tout ça. Hein, c'est normal. Hein, on va voir ce que ça donne. Pierre, peut-être.
Nous, on est au contact de la jeunesse, donc on peut te le dire. Et c'est vrai que entre les études et quand ils rentrent dans la vie active, c'est vrai qu'il y a quand même un fossé entre les études qu'ils ont fait. Nous-mêmes, on a été victimes. Bah, il y a les mois de ce problème.
Toi aussi, Pierre.
Moi aussi, ouais. Donc moi, je suis arrivé au lycée sur de la compta, puis sur de la logistique ensuite, et après sur un BTS transport et prestations logistique, donc même si on restait dans la logistique dans une filière différente, pour finir dans l'animation, tu vois. Même si l'animation c'est une branche qu'on a dès le plus jeune âge parce qu'on passe notre BAFA et puis c'est un petit job d'été qu'on a sur le côté.
Cependant, il y a quand même une différence, je me permets Pierre, il y a une différence entre le job d'été d'animateur et finalement la voie professionnelle où on y vit toute l'année avec, ouais. Quand même, hein, y a, c'est pas tout à fait non plus le même métier quand on est BAFA sur des périodes temporaires que quand on est à l'année.
C'est ça, c'est vraiment différent. Ouais. Et je pense que pour moi, c'est comme disait Bayal, en fin de collège, souvent l'orientation est faite par rapport à ce qu'on va trouver dans notre ville. C'est-à-dire que moi, je me suis focalisé sur ce que je pouvais trouver au sein de ma ville. Or, il y a d'autres lycées dans la région qui permettent d'autres filières et on n'est pas forcément assez bien renseigné sur tout ça. Et bien sûr, il y a aussi le problème des moyens, de l'internat ou du transport qui peut rentrer en compte. Et tout ça, ça joue. Donc ça nous...
Oui, il y a la mobilité qui rentre en ligne de compte de manière presque comme un frein, alors que ça ne doit pas l'être.
C'est ça, et ça vient réduire les choix. Et après mes années de lycée, du coup, quand j'ai pu ouvrir les yeux, me renseigner, j'ai pu voir qu'il y avait une multitude de filières qui étaient vraiment pas mal ou intéressantes, et il est déjà trop tard.
Il est jamais trop tard, Pierre, j'ai envie de dire.
Entre guillemets.
Bah, c'est pas le même effort, voilà. C'est pas le même effort non plus quand on est en situation professionnelle que quand on est dans le parcours. Mon bon Jean-Jean. Non. Oui, on va vous entendre.
Vous m'entendez ou pas ?
Oui, là, très bien.
Ah, parfait, d'accord, très bien. Non, non, il y avait effectivement une réflexion de quelqu'un dans la salle, justement, entre la scolarité, ce qu'on apprend à l'école et ce que ça peut apporter plus tard par rapport au métier, au travail qu'on veut faire. Et tu avais quelque chose d'intéressant, tu disais tout à l'heure par rapport à un patron, ce qu'il attendait.
Bah, t'es obligé de passer par le lycée pour apprendre. Et comme ça, quand t'arrives chez le patron, t'es déjà formé, quoi. Et bah, comment dire ça ? Il aura pas à t'apprendre parce que t'aurais été déjà formé au lycée. Puis voilà, quoi.
C'est une situation que vous avez rencontrée, cette situation de passer par le lycée pour apprendre le métier et ensuite avoir un patron ou pas ? Ah. Ça vous est arrivé à vous ou pas ? En témoignage d'histoire. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Hein, si vous voulez me dire je veux pas en parler, vous n'en parlez pas, mais, je veux pas vous bloquer.
C'est difficile parce que.
Ah ouais. Ah, Jean-Jean vous impressionne.
Ah, mais moi je travaille pas. Moi je suis en intérim, quoi, voilà.
En intérim, bah, c'est du travail peut-être l'intérim. C'est rigolo ce que vous dites. Enfin, c'est rigolo, non, pas forcément, mais en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites non, moi je travaille pas, je suis en intérim. Ouais. Vous avez la sensation de pas travailler quand vous partez en mission d'intérim ?
Bah, j'en ai marre de faire des missions, quoi. J'aimais travailler.
De manière fixe ?
Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, en plein.
Bah ouais, c'est quand même plus sympa, quoi. Puis d'avoir le même endroit, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Tout à fait. Merci de votre témoignage et de votre réflexion. Sur ces questions, effectivement, il y a cette notion qui est importante d'orientation. Ça fait presque peur ce que vous dites en témoignage, de dire bah voilà, on nous emmène là où on nous emmène à travers les notes, à travers presque un parcours qui est prédéfini. C'est dommage si je suis bon en maths et que je voulais faire un truc dans la littérature, parce qu'on va m'envoyer vers les mathématiques quoi qu'il arrive, alors que je voulais faire autre chose.
Puis on a aussi un problème chez les jeunes aujourd'hui, c'est que ils ont une mauvaise image de la filière professionnelle. Donc en troisième, souvent, on préfère aller en seconde générale en se disant voilà, je serai plus intelligent si je suis en seconde générale. Or, c'est pas le cas. Voilà, c'est aujourd'hui, si j'aime la compta, je vais en compta et j'en ferai mon métier. Et ça, expliquer aux jeunes, c'est assez compliqué. Donc on a déjà vu des interventions sur ce sujet-là pour leur faire comprendre que c'est pas parce que le copain va en général qu'il est plus intelligent que toi. Et la finalité, souvent, est que quand on sort de filière générale avec un bac, on ne peut pas forcément travailler.
Bah c'est pas évident, on n'a pas été préparé à grand-chose. Hein, quand on a passé un bac général, on n'est pas forcément prêt à rentrer dans le monde du travail. Que par la filière professionnelle, bon, on y est déjà.
C'est ça. Et ils ont encore du mal à l'accepter. Donc c'est un gros travail à faire, peut-être de la part des professeurs ou des conseillers d'orientation, qui le font déjà, je pense. Mais je pense qu'il faut appuyer sur ce point-là.
Il y a la vision des parents aussi qui joue là-dedans quand même. Hein. C'est aussi la projection de se dire il y aurait comme une espèce de voie noble qui serait le cursus général universitaire ou autre, et puis la voie professionnelle, quoi, qui est une voie où on travaille directement. Donc effectivement, il y a ces représentations et tu fais bien de le souligner. Je vous propose une toute première pause musicale sélectionnée par Bayal, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, c'est toi qui nous as fait les sélections musicales. Je me retourne vers l'ami Pignon, lui proposant de nous envoyer la toute première pause musicale. Ah non, mais me demandez, vous voulez que je choisisse en plus. Envoyez-nous un Tupac, ça c'est parfait. Voilà, envoyez-nous un Tupac pour commencer. Voilà, c'est en plus dans la salle, on me dit c'est parfait. Eh bien, envoyons un Tupac pour commencer, nous poursuivrons ensuite nos échanges autour de cette question. Je travaille donc j'existe ?
Turn it up loud. Hey man, you a little sucker for love. Word up. I should have seen you with trouble right from the start. Taught me so many lessons how not to mess with broken hearts. So many questions. When this began, we was the perfect match. Perhaps we had some problems, but we working at it. And now the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away. Just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man. It just wasn't me. But now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm. Don't be alarmed. Your attitude was the cause. You got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions, like when can I be? You're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. 'Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to.
come back. What I'm a sucker for love.
C'était Tupac, c'était Do For Love, c'était une programmation musicale proposée par notre ami Bayal. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en fait pendant la pause musicale, il s'est dit tout un tas de choses, voilà, des prises de parole hors micro, bah ouais, c'est vrai que c'est plus simple et je le comprends, que la prise de parole hors micro est plus simple que dans les micros. Cependant, certains auraient pu se fendre de l'intervention en micro tout de même. Alors je vais vous rapporter deux idées. Il y a une idée qui était autour, là, assez courte, qui disait, bah ouais, on s'est fait avoir par la conseillère de désorientation. Je trouve ça assez rigolo. C'est été posé un peu comme une vanne, mais finalement, il y a un vrai fond derrière, au vu des témoignages que nous avions juste avant sur l'orientation en fonction des notes. Voilà, la conseillère de désorientation. Et puis, il y a une autre réflexion pendant cette pause musicale. Je discutais sur la notion de salaire décent et j'ai une réflexion qui était intéressante qui est arrivée jusqu'à mes oreilles qui m'a dit bah en fait la décence du salaire dépend aussi du modèle qu'on a eu dans l'enfance et souvent l'objectif qu'on pourrait avoir c'est de vivre au moins aussi bien si ce n'est mieux si jamais on n'est pas au moins aussi bien, c'est qu'on a raté un truc. Voilà, il y avait cette notion-là dans la décence du salaire qui était évoquée en fonction du modèle dans lequel on a vécu. Et je trouve ce truc-là assez, assez intéressant. Il y avait une deuxième idée, pardon Pierre, après je te redonne tout de suite la parole. Il y avait une deuxième idée aussi de cette même personne qui me disait, bah voilà, si je fais un travail très dur, physiquement, harassant, sur lequel je produis un effort physique ou intellectuel important et que je gagne 1000 euros par exemple, la question de la décence se pose quand même. Est-ce que c'est vraiment décent? Par contre, si je suis par exemple chargé de mission ou sur un emploi sur lequel je dis chargé de mission, est-ce que c'est la blague, hein? Je vois Olivier, vous me regardez avec des gros yeux. Non, c'était pour la blague, chargé de mission, mais ça fait partie des postes qu'on appelle c'est les postes bullshit, c'est ça, les postes qui ne servent strictement rien ou sur lesquels on produit pas, parfois même des postes sur lesquels on ne travaille pas. Et là il me disait, si je me donne pas de mal, si c'est pas du vrai boulot, 1000 balles, c'est très décent pour pas faire grand chose. Voilà les deux réflexions que j'ai collectées durant la pause musicale. Ouais, alors la personne qui est intervenue me fait un pouce en me disant c'est très bien, mais n'hésitez pas à vous emparer ça, sinon il va falloir qu'on mette 5 ou 6 pauses musicales pour qu'on collecte toute cette prise de parole. Pierre, vous étiez tu souhaitais prendre la parole, Pierre, là, juste non. Sur l'entre-deux.
Finalement, t'as tout dit.
D'accord.
C'est ça, je voulais revenir sur les différences de travail. Je pense que par rapport à certains boulots qu'on peut effectuer, le salaire peut parfois être assez décent. Ouais.
Monsieur Pignon, vous vouliez intervenir aussi. Je vous en prie. Oh, vous changez carrément de place, vous mettez côté invité, tout ça. Oh, c'est super. Vous changez vraiment de place, là. Vous changez de casquette.
Non, juste une question sur est-ce que le rapport au salaire, il pourrait pas aussi se mesurer peut-être en rapport à l'utilité pour la société, pour le bien commun. Voilà, si c'était par rapport à ça comme critère qu'on pouvait évaluer la question du salaire. Voilà.
Ok, on n'aura sûrement pas la réponse aujourd'hui, mais c'est une idée intéressante aussi. En fonction du bien collectif de mon emploi, j'ai tel ou tel salaire. Pourquoi pas ? C'est une piste de réflexion. Il y a une autre question aussi. Olivier, vous souhaitiez intervenir ? Non, pardon. J'interprète les signes, hein, vous savez. Alors, des fois, j'interprète mal. Sur ces questions-là, il y a aussi cette question de salaire. Non, le salaire, on vient de le faire, c'est réglé. La question de la place que prend le travail dans la vie, quelle place est-ce qu'il prend, soit de manière réelle, concrètement, les 8 heures de travail par jour ou pas, mais plus largement, quelle place il prend même dans la tête, dans le rythme de vie, sur les jours de congé, sur les moments où on n'est pas sur l'acte de travail, mais quelle place a le travail dans la vie de manière générale, combien de temps il prend, quelle place prend le travail dans nos vies entre le moment où on le cherche, le moment où on le trouve, le moment où on y réfléchit, le moment où il nous préoccupe, le moment où je sais pas, on parle de notre travail, quelle place prend-il ? Je sais pas si Olivier, par exemple.
Oui, c'est une question essentielle parce que, on touche même là à quelque chose qui va profondément affecter notre santé, notre représentation et notre représentation sociale, nos vies avec les autres, avec nos conjoints et on s'aperçoit quand même qu'on est en train d'inventer quelque chose de nouveau aujourd'hui. On a eu des modèles successifs qui étaient assez contrastés, même s'il y avait une continuation, et qui rejoint aussi la question de l'orientation professionnelle. Pendant très très longtemps, on ne se posait pas vraiment la question de quel métier on allait faire. D'ailleurs, on n'appelait pas ça un métier. On allait forcément reprendre le travail de ses parents. Et ça s'est fait depuis, ça s'est fait pendant des milliers d'années, quoi. On naissait dans une famille qui exploitait une terre, qui allait à la mine, qui était artisan, et on allait reprendre cette exploitation.
Oui, continuez.
On nous entend encore parce qu'on n'a plus de lumière. Mais ça se voit pas à la radio.
Nous n'avons plus de lumière, du coup, ne perturbons pas nos auditeurs qui, eux, se voient très bien.
Et la question de la place du travail, elle se posait pas du tout, puisqu'on vivait sur notre lieu de travail et on travaillait en famille. Donc, la relation travail et vie privée n'existe. Enfin, la différence travail et vie privée n'existait absolument pas. C'est quelque chose qui est venu avec la division du travail, avec la société industrielle,
où mine de rien on était toujours sur la même corrélation d'orientation professionnelle. On allait travailler dans l'usine où son père avait travaillé, et notre métier était corrélé à l'endroit où on vivait, comme précédemment. On était difficilement huilié en Normandie, on faisait plutôt de la crème fraîche. Et avec la société industrielle, si c'était une usine de pneus qui était à côté, on allait travailler à l'usine de pneus. Et si c'était une usine de vis, on allait travailler à l'usine de vis, parce que c'est là où on était né. Le chômage de masse a fortement impacté ces façons de faire, puisque les usines fermaient et qu'on pouvait plus aller travailler là où travaillait son père. Et là, on est venu à deux choses assez contradictoires, qui étaient la société du désir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. C'est la première fois qu'on se l'est posé, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques dizaines d'années, puisque là on avait une liberté, on n'allait pas reproduire ce qu'avait fait notre génération, donc on pouvait espérer choisir. Et puis, la compétition, c'est-à-dire qu'effectivement il y allait avoir un écrémage en fonction des résultats scolaires, en fonction de la place sociale qu'on pouvait avoir, et qui pouvait nous faire espérer d'être dans la meilleure place possible pour faire ce dont on avait envie. Donc voilà. Et après, sur la question du revenu, la question de l'utilité dans la société ou de la pénibilité, elle se pose pas du tout. Hein. Aujourd'hui, on est clairement sur est-ce qu'on est rentable pour l'entreprise ou pas.
Ce qui est bien dommage, parce qu'a priori, il manquerait plusieurs éléments, en tout cas dans ce qu'on a collecté là, ne serait-ce qu'autour de la table, là sur l'espace jeune. Voilà, il y a d'autres choses qui sont ressorties que uniquement la rentabilité. D'ailleurs, je crois qu'on n'a même pas parlé de rentabilité entre nous. Hein. C'est venu vraiment en... Alors, on sent bien qu'il y a une rentabilité qu'on entend de tous côtés, mais quand on discute comme ça, entre nous, comme ça, là, autour du micro, finalement, cette notion de rentabilité n'est pas apparue naturellement pour nous, quoi.
Voilà. Parce qu'on n'en a pas, nous on n'en a pas besoin dans notre existence. C'est une question de position sociale. Mais je pense que la majorité des gens qui sont ici, effectivement, on se pose pas la question de la rentabilité. On se pose la question de la survivance. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins? Et puis, est-ce que le travail qu'on va faire n'est pas trop pénible? Et effectivement, la place qu'il va prendre dans notre vie, elle devient importante, puisque ça ne fait plus corps avec le restant des aspects de nos vies. Oui, rentrer chez soi le soir avec les problèmes des autres, quand on est animateur dans une maison de quartier, je pense qu'on en entend beaucoup toute la journée. Quand on rentre le soir avec une charge de stress parce que il a fallu qu'on soit rentable et qu'on atteigne nos objectifs, c'est pas toujours évident. Ça pose vraiment une question de santé aujourd'hui, on s'en aperçoit, hein, plus les accidents de travail se réduisent, plus les maladies professionnelles augmentent, notamment celles liées à ce qu'on appelle les risques psychosociaux, le stress, l'angoisse. On parle de burn-out aujourd'hui, donc il y a des gens vraiment qui s'épuisent à essayer de répondre aux exigences de l'emploi et du travail.
Pour en revenir au début de la conversation, là, juste là, il y avait cette notion de filiation que vous abordiez. À une époque, on faisait le même métier que les parents, et puis c'était comme ça. Et puis après, on allait bosser dans la même entreprise ou autre. Est-ce qu'au bout d'un moment, et là, je me retourne un petit peu vers la salle, vers tout le monde, est-ce que finalement, la représentation du travail que l'on a est en lien avec le travail des parents, tout simplement? Est-ce que c'est en lien avec le modèle des parents et du travail? La représentation du travail que vous avez est-elle en lien avec la représentation que vous avez de vos parents et du travail? Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous visez au travail, ce que vous visez comme travail ou ce que vous visez comme forme de travail, et finalement le modèle des parents? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Alors c'est pas forcément une question facile, hein, mais je vais peut-être commencer par solliciter Pierre le temps qu'éventuellement ça réfléchisse, mais est-ce qu'il y a un lien entre la représentation du travail que vous avez et finalement le modèle parental et cette relation au travail?
Alors non,
Non, pourquoi ? Parce que mes parents sont arrivés en France, donc ont quitté le pays pour venir subvenir à leurs besoins ici, et en prenant ce qu'on pouvait leur donner. Donc voilà, et moi étant né ici, j'ai une multitude de choix, donc...
Donc c'est pas la même façon voilà. Du tout de l'aborder.
Et eux-mêmes le disaient, voilà, si on a fait tout ça, c'est pour que tu fasses mieux que nous. Voilà.
Ça colle quand même une pression, non, dans la représentation du travail ou pas ? Quand les parents n'ont pas eu forcément une vie facile, hein, on sait ce que c'est, ou en tout cas on se représente ce qu'est la vie d'un migrant qui vient chercher du travail à l'étranger avec toute la barrière culturelle, toutes les difficultés aussi d'appréhension de tout un univers, de tout un monde, et notamment celui du travail qui n'est pas le même en fonction du pays d'origine ou du pays d'accueil. Voilà, il y a eu de l'énergie qui a été dépensée, j'imagine, par vos parents et sûrement par les tiens, Pierre, en particulier parce qu'on discute tous les deux. Hein. Du coup, quand derrière les parents disent j'ai fait tout ça pour que toi tu aies le choix et que toi tu puisses aller au-delà, il n'y a pas une forme de pression ou pas au bout d'un moment ?
Oui, il y a une pression, oui et non. Alors, oui, parce qu'ils se sont donné les moyens, donc forcément, on n'a pas le droit à l'échec. Ils comptent sur nous pour faire mieux qu'eux, avoir une vie meilleure qu'eux. Et du coup non, pourquoi ? Parce qu'on a les moyens. On a des moyens qu'eux ils n'ont pas eu. Forcément, voilà, on a l'école, on a des conseillers d'orientation, on a beaucoup de filières. Donc oui et non. Il y a une pression, mais quelque part on a les outils pour. On a les outils pour.
Donc finalement avec les outils ça permet d'y accéder. Bayal, je me permets de t'interpeller au loin sur cette question. Mais très bien, ouais.
Ah, parfait, alors.
Sur cette question, justement, est-ce qu'au moment la représentation du travail qu'on a quand on est jeune, est-ce qu'elle est en lien avec le rapport des parents au travail, par exemple ? Est-ce que cette représentation reproduit un peu la relation au travail des parents ? Est-ce qu'il y a un lien là-dessus, quoi ?
Là, je veux dire, voilà.
Ah bah, non mais dans votre représentation à vous du travail, par exemple, dans votre représentation à vous du travail, vous imaginez ce monde du travail, vous le vivez ou en tout cas ça vous parle, quoi, ce monde du travail. Est-ce que cette représentation du monde du travail est en lien avec finalement ce que vos parents ont vécu au travail ? Est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'eux ont vécu ou on est sur une représentation qui a rien à voir et pourquoi ?
Il y a pas de lien. Il y a pas de lien.
Et pourquoi ?
Parce que moi, j'ai fait ce que je voulais, mais pas eux. Eux, ils étaient obligés de suivre, je sais pas, moi.
Il y a eu moins de choix pour vos parents que pour vous.
Ouais, voilà, exactement.
Et ça, c'est lié. Alors, Pierre nous évoquait tout à l'heure les filières. Il disait, nous, on a eu tous les outils, finalement, par rapport aux parents, dont certains arrivaient en France, d'ailleurs. Nous, on a eu les outils. C'est une histoire d'outils et d'accompagnement aussi, notamment scolaire.
Parce qu'en plus, nous, nos parents, ils ne sont pas nés ici, nos parents. C'est-à-dire, nous, on a plus de chance. Il y a plus de trucs à faire ici que là-bas, quoi.
Et du coup, c'est ce que j'évoquais avec Pierre. Est-ce que finalement, du coup, vos parents qui se sont décarcassés sur fabriquer leur propre chemin et tout, finalement, est-ce qu'ils ont des attentes qui mettent en pression, du coup, vis-à-vis de vous ou pas ?
Ouais. La réussite, c'est tout, hein.
Mais ça fait partie clairement du message affiché par vos parents qui sont... En fait, globalement, c'est ouais, toi, t'as pas le choix, il va falloir réussir, c'est ça l'idée ?
Oh, exactement.
Ça met un peu la pression quand même ou pas ça ?
Non. Si, toi-même, t'es comme ça aussi, non ?
Non, ça va. Ouais. Ouais, ça a été intégré de se dire, quoi qu'il arrive, je me donnerai les moyens.
Comme ça, dans n'importe quoi.
Mais alors, du coup, vous donnez les moyens de réussite pour vos parents par rapport à ce qu'ils ont donné ou ça n'a aucun lien parce que de toute façon,
pour moi.
Pour vous avant tout. Ouais. Il y a d'autres.
Tu veux être un modèle aussi pour tes parents, quand même.
Ouais, pour qu'ils soient fiers de moi et tout ça, mais après, c'est ma vie. Hein.
Ouais, mais c'est important d'avoir la fierté de ses parents. Enfin, moi-même, je suis content quand ils sont fiers. Hein. C'est plutôt mieux quand même, de manière générale.
C'est surtout que c'est un double échec pour eux, de se dire, on a quitté nos terres pour réussir, pour que nos enfants réussissent, et après, si on réussit pas, voilà, c'est un double échec pour eux, c'est surtout ça.
Donc finalement c'est presque toucher le fruit de ce départ, de tout ce que ça demandait comme effort, finalement on le touche qu'au moment où les enfants sont en réussite, c'est ça ?
Ouais, c'est
ça. On récupère le salaire de l'effort à la fin, quoi.
C'est ça.
Et alors du coup, on parlait du coup des deuxièmes générations. Il y a les troisièmes générations qui existent déjà, et c'est notamment les enfants de ces deuxièmes générations, tout simplement. Il y a une attente particulière ou pas, ou ça y est, l'histoire est passée et puis il n'y a plus aucun lien avec finalement cet effort fourni ou ce modèle, cette représentation du travail, c'est complètement aplani parce que troisième génération, ils feront ce qu'ils voudront, réussite ou pas, on verra bien. Non, comment ça se goupille ?
Je sais que vous avez des enfants, Pierre.
Oui.
Du coup, c'est cette représentation.
Non, je pense que c'est toujours pareil.
C'est toujours pareil, ouais. Il y a quand même une petite pression.
Il y a quand même une petite pression, ouais.
Il y a un truc, il va falloir faire mieux, quoi qu'il arrive, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et ouais, c'est sûr, moi, j'aimerais bien que mon fils fasse mieux que moi, c'est une certitude. C'est une fierté aussi, c'est valorisant, quoi.
Très bien. Je vous propose que nous nous repenchions autour d'un autre micro-trottoir qui a été tourné toujours par notre équipe de reporters, à savoir Charlie, Inès, Anissa et Bayal. Celui que je vais choisir, j'ai envie de vous dire, Monsieur Pignon, c'est celui qui évoque, pour ces gens qui travaillaient, qu'est-ce qui était positif et qu'est-ce qui était négatif dans leur emploi. Voilà un petit peu le qu'est-ce qui était positif et négatif dans leur emploi. On écoute ça tout de suite.
Et quels sont les points négatifs et positifs dans votre métier ?
Point positif, c'est la relation à l'autre, c'est le renouvellement. Si on s'intéresse au truc, on fait jamais la même chose et donc c'est passionnant. On apprend des tas de choses soi-même. Les points négatifs, je dirais peut-être une sous-valorisation du salaire par rapport aux responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on a quand même des enfants en responsabilité, 25, voilà. Les autres inconvénients, peut-être, je sais pas, un manque de soutien peut-être de l'institution par rapport aux problèmes qui sont parfois posés aux enseignants du fait d'avoir géré des enfants en très grande difficulté. Et on nous demande de plus en plus justement d'intégrer des enfants qui ont de lourds handicaps. Ça s'appelle l'école inclusive, sauf qu'on donne pas les moyens de le faire. On n'a pas les personnels qu'il faut. Par exemple, on nous dit l'enfant va être inclus dans l'école avec une aide. Alors en France, on a une AVS, c'est-à-dire c'est une personne qui est prise comme ça à Pôle emploi et qui n'a quasiment pas de formation. Alors qu'on nous donne l'exemple de la Norvège, la Finlande, etc. Eux, c'est pareil. L'enfant a une personne qui accompagne l'enfant. Mais c'est un enseignant spécialisé. Voilà.
Les points positifs, apporter du bien-être aux clientes, ça m'apporte du bien-être à moi-même. Ça m'apporte donc beaucoup de bonheur. Et points négatifs, j'en ai pas réellement.
Point positif, parce que c'est un métier que j'ai choisi, donc j'y vais avec plaisir. Négatif, c'est le fait d'être debout toute la journée, c'est fatigant, et puis après on en prend du positif, c'est pas grave.
Du côté négatif, il y en a pas, et positif, je dirais, comme tout à l'heure, on aide le service public.
Alors les points négatifs, c'est qu'il faut se lever très tôt le matin, et moi qui j'aime bien dormir. Et les points positifs, c'est que c'est un salaire en fin de mois, voilà, donc j'aime ce que je fais, c'est voilà quoi, c'est sympa.
Alors les points négatifs, c'est que le domicile, c'est compliqué car il faut tout transporter, s'installer chez les clients, on perd de temps, voilà. Après, les points positifs, c'est que je suis mon propre patron et puis je fais un peu comme je veux. C'est moi qui gère mon temps, mon organisation.
Voilà, c'était les gens ordinaires qui répondaient aux questions d'Inès, Anissa et Bayal. Alors c'est en off d'antenne. On me confie plein de choses. Voilà, il y a un micro qui tourne et tout le monde s'en empare pas forcément. Il y avait une idée qui était intéressante sur cette notion, notamment pour ceux qui dont les parents sont venus d'ailleurs et puis qui sont confrontés à une culture, à un fonctionnement, à une autre façon de travailler, et notamment ce que me disait un des jeunes là, il me disait il y avait quand même quelque chose de particulier, c'est que les parents, ne connaissant pas le système, comment fonctionnaient les choses, ils n'étaient pas forcément en capacité d'orienter forcément leurs jeunes, leurs enfants, et finalement la seule chose qu'ils pouvaient, c'était mettre la pression pour que ça avance, mais il y avait une confiance un peu notamment sur les conseillers de désorientation, comme on me disait il y a quelques ans, je cite, il y a des guillemets un peu partout, hein.
ce qu'on me disait, c'est que pour la troisième génération, finalement, ces jeunes-là, eux, par contre, connaissent le système, connaissent les outils, connaissent le fonctionnement, et finalement, ce qu'on me confiait dans l'oreille, et je cite, hein, je remets des guillemets, nous, au moins, on pourra leur dire de pas forcément écouter la conseillère de désorientation et pouvoir nous-mêmes les orienter, les conseiller sur leur parcours, chose que cette première génération née ici n'a pas bénéficié. Voilà, c'était sur les petits éléments. Il y avait une autre intervention, Bayal, que tu souhaitais faire, je crois. T'as levé la main, j'ai pas vu tout à l'heure, j'ai envoyé le micro-trottoir, tu venais réclamer ton droit à la parole et tu as bien raison. Oh oui, c'est bon. Allez, Bayal.
Non, moi, je voulais reprendre certains propos de Lionel. C'est vrai que nous, on connaît bien le système, donc c'est-à-dire que nos enfants, ils auront deux fois plus la pression. Moi, si j'ai un enfant, je lui mettrai deux fois plus la pression, parce que là, il a tous les outils pour réussir. Il a les deux parents qui parlent français. Déjà, ça, c'est... Ça, nous, on n'avait pas. Enfin, moi, personnellement, j'avais pas. Mon père, il a appris ça quand il est arrivé en France. C'était compliqué. Ma mère, pareil. Mais après, je pouvais pas dire, tiens, maman, j'ai mes devoirs à faire. Tu peux m'aider? C'est compliqué. On devait se débrouiller tout seul. Là, pour un enfant, il a ses parents. Donc, c'est nettement plus facile. C'est-à-dire que s'il réussit pas avec tous ces outils-là, moi, sincèrement, moi, je pense que je lui mettrais la pression. Voilà. C'est tout. Parce que, comme dit Lionel, nous, on connaît toutes les failles du système maintenant, parce qu'on a grandi ici, on a grandi avec la culture française. Du coup, on sait comment le pays fonctionne, alors que nos parents, non, ils sont venus dans une terre inconnue. Et voilà, là, ça fait peut-être 40 ans, 50 ans. La génération de l'Afrique noire, c'était dans les années 70. Mais voilà, c'est au fil du temps qu'ils ont appris. Alors que nous, on nous a inculqué ça dès la maternelle.
Dès le plus jeune âge, donc c'est voilà, il y a une pleine maîtrise du fonctionnement, des rouages de tout ce système. La notion de modèle parental, la notion de reproduire ou pas un modèle, alors vous nous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu une époque où la question ne se posait même pas, le modèle se reproduisait quoi qu'il arrivait, parce que c'était quasi la seule voie. Aujourd'hui, il existe encore ce modèle de, entre guillemets, de reproduction ou de pression parentale, ou de, je ne sais pas comment le qualifier précisément, mais le rôle, en fait, sans que ce soit même le rôle, il peut être de manière indirecte, mais en tout cas le rôle du parcours des parents.
Ouais, il est essentiel, on le voit, hein, les trajectoires familiales qui sont marquées par énormément de chômage, des enfants qui ont, et des jeunes qui ont beaucoup de mal à s'identifier au travail et à se mobiliser pour pouvoir travailler, à se projeter sur ce qu'est le travail. Après, c'est vrai que sur la liberté de choix, elle est quand même relative statistiquement. Si on n'est plus dans la filiation aujourd'hui, on est encore grandement dans la reproduction, sociale. On a quand même beaucoup de mal à passer d'une classe sociale à une autre, à grimper ce qu'on appelle l'échelle sociale. Les chutes peuvent être assez rapides. Monter, ça peut être assez compliqué. On le voit, hein, enfin, on est à moins de 10% d'enfants ou d'ouvriers en université, et l'université est quand même libre et gratuite, et il suffisait il y a encore peu de temps de n'avoir que le bac pour s'y inscrire et pour envisager un cursus. Le bagage culturel, je pense que c'est une des grandes différences qu'il y aura dans les gens qui prennent le micro là ce soir, hein, c'est effectivement comment on acquiert un bagage culturel qui nous permet d'informer, de former, d'orienter nos enfants. On l'a pas tous, ce bagage culturel. Il est grandement lié à la reproduction sociale, et le fait de pouvoir sortir de sa condition, c'est vraiment l'astuce que ça va se poser. C'est notre capacité à se questionner, à rechercher de l'information, et tous ne l'ont pas, quelles que soient les origines, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis, enfin de familles qui sont là depuis des générations, et où on se pose pas forcément la question de la réussite scolaire, mais plus de au moins réussir dans la vie, c'est au moins avoir un emploi stable qui perdure et qui permette de survivre, de vivre bien. Enfin, après, on se rend compte que plus
que qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, c'est comment on va vivre qui va se reproduire. Si on est locataire dans un quartier, bah, pourquoi pas être à nous, enfin, comme ses parents, locataire dans un quartier. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est propriétaire dans une petite cité pavillonnaire de se dire nos enfants vont être locataires dans un quartier. Et c'est beaucoup plus confortable de se dire bon bah ils vont faire comme nous. C'est toujours confortable que les enfants fassent comme soi, parce qu'on est très content qu'ils réussissent, mais mine de rien ils deviennent un peu mieux que nous, et c'est pas toujours si facile à vivre que ça. C'est ce que certains auteurs appellent la névrose de classe, c'est le fait de d'être dans une condition sociale plus aisée que ses parents, et c'est pas que du financier, hein, c'est du culturel, c'est du social, c'est des connexions sociales plus grandes, c'est un pouvoir plus grand dans la société. C'est pas toujours bien vécu des deux côtés des générations.
Ce que vous me dites, alors pas sur une fois de plus, vous dites toujours plein de choses dans vos réponses. Donc moi, je vais me saisir d'un élément, et un élément en particulier qui n'est pas de moi. C'est lors de pour préparer ces émissions, en fait, nous venons ici échanger, et puis la discussion se fait assez aisément quand on discute autour d'un café en temps de préparer les thèmes. Et il y a un des jeunes qui m'a sorti qui m'a dit quelque chose et qui m'a dit mais ça faut le dire. Et finalement, c'est assez important. C'était la notion, alors je sais pas si je vais vous la redonner précisément, mais c'est un jeune qui est dans la salle, je crois, d'ailleurs, donc il pourra me reprendre si je dis des bêtises. C'était comment est perçue, en fait, cette notion, et toujours avec les parents migrants notamment, qui sont arrivés sans savoir lire, sans savoir écrire, sans diplôme pour certains, et puis qui sont arrivés notamment sur les chaînes de Renault, hein, qui a embauché beaucoup de monde notamment. Alors je cite Renault, mais il y a eu bien d'autres endroits qui a embauché beaucoup de monde, et aujourd'hui finalement leurs enfants, qui certains accèdent à ces mêmes emplois, aujourd'hui on exige des diplômes, des qualifications, des parcours un peu particuliers, et il y a une espèce d'ambiguïté là où les parents ont réussi à rentrer finalement avec un statut ou en tout cas avec un bagage moindre. Aujourd'hui il y a des exigences importantes pour reprendre les mêmes postes finalement. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose ou pas, mais en tout cas cette réflexion, je la trouvais suffisamment intéressante pour la relever aujourd'hui, c'est-à-dire que les attentes d'hier ne sont plus les attentes d'aujourd'hui, sans diplôme et sans maîtrise forcément de l'écriture, on pouvait accéder à des emplois qui aujourd'hui demandent des qualifications très spécifiques. Voilà, je ne sais pas si ça évoque quelque chose ou pas, mais en tout cas, j'ai trouvé cette intervention de jeunes assez intéressante et qui méritait au moins d'être relevée aujourd'hui sur l'émission. Voilà, ça évoque quelque chose pour quelqu'un, pas forcément, c'est pas grave, je poursuis alors, mais c'est une dure réalité quand même, quoi, au bout d'un moment, de se dire je vais reprendre le même poste mais avec un bagage supérieur, sinon je n'accéderai pas à ce poste de toute façon. Sûrement que le chômage a fait son œuvre là-dedans.
Oui, c'est la première conséquence, hein, ce chômage de masse, hein, qui apparaît dans les années 70-80. Il entraîne ce qu'on appelle la lutte des classes, et effectivement, il devient extrêmement aisé de jouer des coudes plutôt que de jouer l'identité collective comme on a pu le connaître avec l'identité de la classe ouvrière ou de la paysannerie à certains moments où on se posait la question de façon collective. Et oui, aujourd'hui il faut être le meilleur pour avoir le pompon sur le manège, ouais. Et puis il faut bouger aussi, parce que on entend depuis le début de la soirée, il y avait un jeune homme notamment qui disait moi j'aimerais bien arrêter l'intérim, pouvoir me poser, avoir un boulot fixe, alors qu'aujourd'hui les consignes, elles sont sur la mobilité, sur l'adaptation.
Ça, c'est les consignes de l'entreprise, l'entrepreneuriat, quoi.
Voilà, de l'entrepreneuriat, plutôt du marché du travail. Les consignes du marché du travail, elles sont clairement de pouvoir être disponible, de pouvoir être mobile, de pouvoir être flexible, de pouvoir s'adapter. On sait très bien aujourd'hui, je pense que les conseillers d'orientation qui cultivent encore l'idée de tu vas trouver une bonne place, un bon métier qui te fera vivre,
on peut rire devant eux parce qu'on sait très bien qu'on va avoir plusieurs vies professionnelles dans un parcours de vie. Clairement, aujourd'hui, dans les écoles de management, les gens qui sortent pour RH, on leur apprend à lire que quelqu'un qui a sur son CV 20 ans d'expérience dans une boîte, c'est compliqué. Parce que ça va être compliqué d'apprendre de nouvelles choses et de s'adapter à de nouvelles formes de travail.
Finalement, c'est plus ce qui était. À une époque, c'était rechercher des gens stables,
oui.
Qui rentraient dans l'entreprise et qui connaissaient toute leur carrière et qui connaissaient un métier. Aujourd'hui, presque, c'est un handicap.
Aujourd'hui, on recherche des gens qui sont compétents, donc qui sont mobiles et adaptables. Avant, on cherchait des gens qui avaient un métier, c'est-à-dire qui arrivaient avec 20 ans d'expérience et qui étaient capables de diluer dans la façon de travailler ce qu'ils avaient appris ailleurs pendant 20 ans. Donc, du coup, on piquait les idées du concurrent, on était plutôt content d'avoir quelqu'un qui avait tout ce patrimoine et cette richesse. Non, aujourd'hui, les choses sont changées parce qu'il faut que les personnes soient interchangeables.
Ça déshumanise un petit peu aussi cette notion d'équipe de travail, en tout cas des gens qui constituent la force de travail dans une entreprise, quoi. Ça déshumanise cette force de travail. Quand au bout d'un moment on est reconnu pour un métier, un savoir-faire, un parcours, vous l'évoquiez, et qu'au bout d'un moment on nous morcelle pour prendre juste la compétence comptable ou la compétence, je sais pas moi, de mener d'équipe, ça déshumanise aussi notre fonction, non ? En tout cas, moi, c'est ce que ça me renvoie.
Oui, sans doute. En tout cas, ça crée un mal-être. Ça crée un mal-être chez beaucoup de personnes et puis ça crée un isolement. C'est-à-dire que on retrouve en santé du travail, on retrouve beaucoup de gens qui, effectivement, se sentent particulièrement isolés dans leurs équipes parce que on ne sait pas qui va rester, parce qu'on a des objectifs différenciés de plus en plus, parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes statuts. L'intérimaire, le CDD, le CDI, l'indépendant prestataire qui vient aussi de plus en plus dans certaines équipes, qui est son propre patron et qui vient travailler dans une entreprise, ça arrive de plus en plus, avec ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Donc on est en tout cas résolument sur un isolement qui est forcément pathogène.
Moi, je me posais la question, et là, pour le coup, c'est plutôt autour de la table là que je la posais de manière générale. À quoi ressemblerait un travail de rêve ? On parle pas de salaire, hein, on parle de travail là et de rêve. Il n'y a pas de limite au possible, en tout cas autour de la table, là, tout de suite. J'ai pas dit que je vous embauche à cette fonction, hein, mais à quoi ressemblerait un travail de rêve ? C'est quoi un travail de rêve ? À quoi ça ressemblerait un travail de rêve ? Ouais, bah par exemple, un travail de rêve, ce serait quoi pour vous ? Saisissez-vous du micro. À quoi ça ressemblerait un travail de rêve ?
Un travail de rêve,
pour ouais.
C'est un travail dont on gagne beaucoup d'argent.
Ouais.
Beaucoup d'argent et sans difficulté.
Alors du coup, ça pourrait être quoi, par exemple là,
Un footballeur, être footballeur.
Footballeur, ça c'est un travail de rêve, ouais.
Oui, pour moi.
Faut beaucoup de talent, là, pour le coup.
Comment ?
Faut beaucoup de talent.
Ouais, après, c'est toi et ta chance.
Ouais. Et sinon, à part footballeur, il y aurait quoi comme métier de rêve pour vous en particulier ?
En dehors du sport ?
Ouais. Ou dans le sport éventuellement, mais...
Pilote d'avion.
Pilote d'avion ?
Oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait rêver dans ce métier ? Mais non, c'est intéressant, hein, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui fait rêver dans ce métier ?
Bah, je sais pas, parce que dans mon enfance, j'ai regardé beaucoup de films d'avion. Et
ça donne envie.
Ça donne envie parce que généralement les pilotes c'est eux les sauveurs et tout. C'est eux les acteurs principaux des films et tout. C'est-à-dire que ça m'a donné envie.
Bah ouais, bah c'est vrai. Métier de rêve, tout à fait. Bah vous avez raison. Hein. Métier de rêve, moi ça me va bien. Il y a d'autres métiers de rêve là en salle. Un truc vraiment qui ferait vibrer. Ce serait quoi un métier de rêve en fait ? C'est quoi qui ferait plaisir en métier ? Un vrai métier de rêve ? Alors, qu'est-ce qui serait un métier de rêve,
finalement,
Pierre ?
La question n'est pas simple. Hein.
Non, elle n'est pas simple. Hein.
Ouais, elle n'est pas simple, ouais.
Ouais.
C'est un métier de rêve, donc sans compter le côté financier, bah, ce serait faire quelque chose vraiment qu'on aime vraiment.
Ouais.
Je pense que ce serait le premier point. Et avec de la facilité, peut-être, quelque chose, je sais pas.
Un truc qu'on ferait sans avoir l'impression de le faire.
Un métier de rêve, peut-être travailler chez moi, 2 heures par jour et avoir un bon salaire. Ce serait peut-être ça un métier de rêve aujourd'hui.
À la maison. Alors, tout à l'heure, tu étais en train de nous dire, ouais, ce qui est intéressant dans le travail, c'est aller de rencontrer des gens, me refaire un autre univers. Et finalement, quand on touche la question du rêve, tu nous dis, à la maison, quoi.
Ouais, mais.
Pour bosser en chaussons, c'est ça ?
Au fil du temps, on s'épuise un peu. Et je me dis, pourquoi pas rester chez soi, travailler 2 heures et avoir un bon salaire.
La classe, quoi.
Et du coup, avoir tout le temps pour profiter de la famille, etc. Mais. Bon, c'est bien que...
Il y a une notion de durée quand même. 2 heures, ce serait pas mal.
Ouais, moins on en fait, mieux c'est.
Voilà. Bah, Yal, y avait de l'intervention de ton côté ?
Oui, j'ai un jeune. Alors, Amine, être président.
Ah, alors, c'est quoi dans la notion de président qui est de rêve ?
Je sais pas, en gros... en gros, c'est pas... C'est, en fait, on dirige un pays, donc c'est quelque chose d'énorme, quoi. Et c'est pas n'importe quoi. C'est ça... que, en fait, je sais pas, le pays, en quelque sorte, il dépend de toi un peu. Parce que c'est toi qui le dirige. Et t'as de grandes décisions à prendre, etc. Et je pense que ça serait un métier de rêve.
Un métier de rêve. Alors pour le coup, c'est le type de métier qui demande de travailler beaucoup, j'imagine.
Comment ?
C'est un métier qui demande de travailler beaucoup.
Oui,
diriger tout un pays, à mon avis, on n'est pas aux 35 heures, à mon avis.
Oui, on est à beaucoup plus, mais après, comme je vous ai dit, c'est que voilà, on est quelqu'un d'important et voilà quoi.
Très bien. Ouais, ça c'est un métier de rêve, c'est la classe quand même. Est-ce qu'il y a d'autres métiers de rêve autour de toi, Bayal ?
Je demande.
Demandez donc.
Travailler à l'Élysée.
Non, mais c'est classe ça, parce qu'il y a une notion, il y a quand même une notion de responsabilité, il y a une notion de travail pour les autres, et puis d'investissement et de reconnaissance. Il y avait cette notion. Moi, j'aime bien cette notion de président. Voilà. Oui, Bayal, une autre intervention sur le métier de rêve. À quoi pourrait ressembler un métier de rêve pour vous ?
Un métier où.
Un métier, ouais.
Je sais pas comment dire. Un métier où. Ouais, mais que tu. T'as le plaisir de faire, en fait. Tu gagnes de ça, en fait.
Il y a une notion de plaisir importante. Ouais. Pour vous, par exemple, très clairement, à quoi pourrait ressembler un métier de rêve ?
Je sais pas, un footballeur. Hein.
Footballeur, ouais. Un
sportif, quoi. Sportif ou. Même pour certains, docteur. Voilà, tu gagnes de l'argent en sauvant des vies.
C'est plutôt pas mal. Oui, c'est gratifiant. Hein. Sauver des vies, c'est hyper valorisant, effectivement. Mmh. Il y a cette notion d'être valorisé qui ressort aussi dans ce que vous dites. Cette notion de, c'est un métier classe, quoi. Enfin, il y a un côté.
Ouais, c'est un truc classe, et même moralement, c'est. Voilà.
Très bien. D'autres métiers de rêve Inès, un métier de rêve pour toi ?
Être influenceur.
Être ?
Influenceur, tout ce qui est les youtubeurs, etc.
Ah là, on est dans les nouveaux métiers, là. Hein. Alors, pour quelle raison ?
Grâce à ça. Ils voyagent, ils reçoivent des colis tous les jours chez eux. En plus de ça, ils sont bons qu'à faire des photos, des vidéos, et ils se la coulent douce. Et ils ont de l'argent.
Alors, il y en a plein qui essaient et plein qui réussissent pas, quand même. Hein.
Ouais, mais après... C'est toujours pareil. Enfin, l'élite, ils sont toujours mieux que ceux d'en bas. Sinon, j'en ai un autre. Je pense animateur au Club Med ou quelque chose comme ça. Genre quand on est jeune et tout, on voit du monde, on visite pas mal de pays. Et en plus de ça, on fait la fête, on s'amuse, enfin, tout ce qui est cool, quoi. Et on gagne de l'argent.
Voilà.
Ouais, je pense que c'est ça, c'est réunir un maximum de conditions idéales pour chacun, en un seul truc, quoi.
Non, Yal, je te vois tendre le micro. Tu voulais nous parler de ton métier de rêve aussi ?
Non, moi ça rejoint
certaines personnes ici. Je pense que quand on est né dans une comment dirais-je ça ? Dans un certain milieu, nos rêves c'est nos modèles, et nos modèles c'est les footballeurs. Ça revient souvent. Moi, mon métier de rêve, oui, quand j'étais jeune, c'était être un sportif très connu comme Zidane, avoir ma photo sur l'Arc de Triomphe. Le 12 juillet 98, ça, c'était mon rêve.
Mais après,
ouais.
Mais il y a vraiment une notion de reconnaissance à travers le travail qui est importante. Dans chacun des intervenants, il y a la notion de c'est gratifiant et je suis reconnu à travers mon travail. Enfin, c'est ce qui ressort, hein, président, aviateur, parce qu'aviateur, on sauve le monde à chaque fois, hein, c'est le personnage principal, bien entendu. Il y avait cette notion-là. Non, mais à chaque fois, il y a la notion quand même de reconnaissance à travers cette notion de travail. Ça vous évoque peut-être quelque chose, ça, Olivier ?
Une notion de positionnement social, de regard social, de lien avec les autres. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel pour s'affirmer en tant que soi, auprès de sa famille, pour se constituer un réseau social. Oui, c'est forcément essentiel. Et trouver du sens aussi. Il y avait effectivement la gratification, mais dans plusieurs des professions qui ont été posées, il y a trouver du sens. Le médecin, effectivement, il sauve des vies. Donc c'est chouette de sauver des vies, mais c'est aussi une mission qui a du sens. Et c'est souvent là où on trouve dans l'identification outil des facilités à se sentir bien et à s'apaiser lorsqu'on rentre chez soi et pouvoir profiter sereinement. C'est quand on sait que ce qu'on a fait dans sa journée est utile, pour reprendre les propos de Tim tout à l'heure.
Voilà, entre deux, il y a un SMS qui est arrivé de participation auprès de Pierre. Il y a quelqu'un qui voulait être
Testeuse d'hôtel.
Il y a une notion de voyage là-dedans. Hein,
c'est anonyme, j'ai pas le droit de le dévoiler.
Non, c'est anonyme, bien sûr, c'est arrivé par message, on prend les messages anonymes. Testeuse d'hôtel. Ok, bon, ça marche. Je vous propose, Monsieur Pignon, si vous le voulez bien, parce que justement, c'était l'objet d'une des questions de notre équipe, Inès, Anissa et Bayal, qui ont été tournées dans les rues ébruissiennes. Il y a une des questions qui était, quel est votre métier de rêve ? On écoute ça.
Quel était votre métier de rêve lors de votre enfance ?
Ah oui, pilote de ligne.
Ah, ça, c'est un beau rêve, ça.
Ah ouais.
Je voulais être danseuse professionnelle, donc ce qui n'a rien à voir, mais l'esthétique, ça fait partie un peu de mes rêves aussi.
Patineuse artistique.
Ah, c'est assez original.
Quand j'étais petit, je voulais être soit pompier. Alors, je voulais être pompier, mais pas pour éteindre le feu. Je voulais être pompier pour apporter de l'eau dans les pays où il n'y en avait pas assez. Voilà.
Ah, mon métier de rêve, c'était devenir caissière, coiffeuse, le rêve de toute petite fille. Maintenant, mon métier de rêve, ce serait d'être médecin, dentiste, super bien gagner ma vie, quoi.
La coiffure, tout simplement. J'ai réalisé mon rêve de petite fille.
Ah, donc vous vivez en plein rêve.
C'est ça.
Bah, merci beaucoup.
Voilà, c'était des personnes lambda qui répondaient aux questions d'Inès, Anissa et de Bayal. Entre deux, dans les métiers de rêve, Pierre me glissait à l'oreille. Non mais attends, il y a le cadre aussi qui compte, hein, parce que moi on me fait bosser sur une plage, ciel bleu, mer turquoise et compagnie. Moi ça va, hein, je veux bien bosser. Hein. Et il a raison Pierre, il y a le cadre qui compte énormément. Bah ouais.
Ouais, surtout hein. Qu'on souffre en Normandie.
Ah bah non, question soleil, ouais. J'avoue, là ça c'est un peu compliqué. Ah bah faut bien qu'on lâche un petit peu. Avant d'arriver sur la toute dernière partie de cette émission, je vous propose une respiration musicale, si vous le souhaitez, Monsieur Pignon, histoire que nous réorganisions nos petites fiches et puis que nous puissions nous préparer à la fin de cette émission.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes, parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse. Et je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste
c'était le deuxième choix de notre équipe jeunesse, à savoir Kyo, Dernière Danse, c'est le titre de ce qu'on a mis dans vos oreilles. Voilà, nous sommes toujours en direct, en live, en public de l'Espace Jeune de la Madeleine, à l'occasion de ces cycles d'émissions prises dans Thème. Aujourd'hui, la thématique était « Je travaille, donc j'existe ?» point d'interrogation. Et j'aurais envie, moi, en conclusion un petit peu de cette émission, il nous reste 7-8 minutes devant nous, d'aborder la question, c'est peut-on vivre sans travailler ? Et si on travaille pas, on fait quoi de nos journées ? Voilà, je sais pas s'il y en a qui ont un avis sur la question. Peut-on vivre sans travailler ? Et si on travaille pas, que faisons-nous de nos journées finalement ? On évacue la question des revenus, hein. On évacue la question du salaire, des revenus, on se posera cette question là plus tard. Mais en tout cas, peut-on vivre sans travailler ? Et si oui, que faisons-nous de nos journées ? Tu voulais intervenir peut-être, non ? Je sais pas, peut-on vivre sans travail déjà ? C'est une première question. Peut-on vivre sans travail, sans travailler ? N'hésitez pas, ouais.
Non, on peut pas.
Pourquoi ?
Parce qu'on galère chez nous. Et il faut une occupation pour passer nos journées.
Donc du coup, le travail est une bonne façon de...
C'est comme l'école en fait. C'est comme l'école.
Ah, c'est ça, s'il n'y avait pas d'école, que
ferions-nous ? Galère, forcément.
Mais puis il y a l'histoire du copinage aussi avec l'école, hein.
Comment ?
Le copinage, les copains, les amis, ouais. Tout ça, ça se fait à l'école.
C'est à l'école qu'on construit des relations amicales. Bah, Miko, je sais pas comment on dit ça.
Bah, ça dépend combien ils sont. Pardon. Mais en tout cas, ouais, c'est important. Donc, du coup, pour toi, voilà, non, on faut qu'on travaille.
Effectivement.
D'autres ont des avis différents, sensiblement les mêmes ou autre chose. Peut-on vivre sans travailler ? Et que faisons-nous de nos journées si on travaille pas finalement ? Ça laisse du temps, hein, si on travaille plus, hein.
Moi, je partage le même avis que l'autre fille.
Ouais, faut travailler.
Ouais, faut travailler. C'est important.
Ouais, et alors du coup, ça apporterait quoi le travail ? On évacue la question de l'argent, hein. On parle plus d'argent, parce que ça, on a bien compris pourquoi c'était important de travailler, notamment pour les revenus. Mais si on évacue cette notion-là, voilà, pourquoi travailler, c'est essentiel ?
Bah, c'est... Faut rentrer... Ah, vous parlez pas de l'argent, là ?
Non, je parle pas d'argent. Si on parle pas d'argent, c'est toujours important de travailler. Enfin, c'est toujours, on peut vivre sans travailler.
Bah non, là non, ça change.
Parce que, ça change tout.
Moi, mon point de vue, c'est travailler pour gagner de l'argent.
Et si on évacue cette notion d'argent, il n'y a plus d'intérêt à travailler.
Non.
Alors, comment on occuperait ces journées?
On reste chez nous, on parle avec des collègues. Voilà.
D'accord.
Mais là.
Lionel, ouais, cette notion de travail, peut-on vivre sans travailler et que faisons-nous si on ne travaille pas?
Déjà, peut-on vivre sans travailler, ça dépend ce qu'on attend de la vie. Si on veut bien vivre dans un certain confort, c'est sûr que là on est forcé de travailler pour avoir de l'argent. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on ferait? Travailler, mais pas forcément faire ce qu'on aime déjà. Trouver des occupations, des hobbies, etc.
Ce qui est une espèce de... Enfin, c'est une forme d'activité.
C'est une activité. C'est pas un travail.
Voilà, c'est ça. Tout dépend comment on définit.
Le travail, je vois ça de façon... Le côté péjoratif, c'est genre, oui, je vais travailler, alors j'aimerais faire autre chose, donc... Bon, après...
Ouais, c'est ça, dans la notion de travail, il y a la notion de contrainte.
C'est ça.
C'est ça, il n'y a pas le choix, quoi.
Ouais.
Que si on évacue cette notion de besoin d'argent, finalement, ouais, des fois oui, mais des fois non.
Ouais, on ferait ce qu'on aime, hein, de toute façon. On serait avec nos proches, on ferait des activités qu'on aime, hein, qui nous tiennent à cœur.
On irait jouer au foot plus souvent?
Oui, pour ceux qui aiment le foot ou le sport en général, oui, on ferait plus de sport.
Je repose la question un peu autour, à qui veut s'en saisir cette notion. Peut-on vivre sans travailler et que ferions-nous de nos journées, Pierre?
Bah oui, on peut. Les retraités le font bien. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'ils sont, ils ont un programme très très bien établi et je pense qu'on peut s'inspirer d'eux.
Oui, d'ailleurs, lors de la dernière émission, on avait une dame retraitée qui disait oh là, je suis encore plus occupée que quand je travaillais.
Ouais, c'est ça. Donc non, je pense qu'on peut vivre, sans travailler si socialement on est assez solide. Quand je dis assez solide, c'est-à-dire qu'on a nos amis, nos occupations, on a la famille, le sport, pour la plupart ici on est sportif. Donc il y a de quoi s'occuper. Donc est-ce qu'on peut vivre sans travailler? Oui, oui.
Je vois dans vos yeux le mais pourquoi même tu poses cette question? Bien sûr que oui. Enfin, y a un oui plus qu'affirmé dans vos yeux.
Ah oui. Si demain on me disait, bah, écoute, tous les mois, on se verse ton salaire sur ton compte et tu travailles pas, occupe-toi, je suis preneur.
Oui.
Et je pense que si la question la tourne comme ça, tout le monde dirait oui.
Ouais, bah je...
Tout le monde trouverait de quoi s'occuper.
Alors ça dépend ce qu'on appelle travail, parce qu'il y avait ce que disait Lionel, là, il y avait cette notion de contrainte. Hein, ça veut dire qu'il disait oui, travailler, oui. Mais au bout d'un moment, la contrainte, c'est bon, quoi. On n'est pas obligé d'y aller tous les jours non plus, quoi. Enfin, c'est important, cette notion. Olivier.
Oui, elle est primordiale, même sur la vision du travail, ne serait-ce qu'à l'origine. Hein, Tripalium, c'est un instrument de torture.
Ah bah voilà, on y revient. On avait dit qu'on l'évitait, et à 3 minutes de la fin, on est obligé de revenir à Tripalium. Ah, on y va.
Il a été largement amené. Donc oui, il y a cette notion de contrainte qui vient redéfinir notre rapport au travail. C'est pour ça que nous d'ailleurs, on étend de plus en plus notre champ d'études à l'activité. Et puis il y a la notion de production aussi, c'est comment on produit, et là-dessus c'est assez intéressant que beaucoup de gens qui vous disent s'exclure du travail et trouver d'autres formes de production économique et de vie et de production de vie en communauté notamment, in fine, pour les avoir approchés et étudiés, in fine arrivés à 60-70 ans, ils pensent vraiment avoir passé leur vie à travailler quand même. Donc la contrainte, elle est aussi liée à comment on produit, même si on se débarrasse du rapport économique et d'inégalité, d'exploitation. Parce qu'il y a aussi ça dans le travail, notamment le travail stricto sensu, c'est-à-dire le salaire. Il y a cette notion d'exploitation, de contrainte et de subordination, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre de son ouvrage.
Et est-ce qu'on peut vivre sans travailler? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de trouver du sens à sa vie? On voit que très rapidement, il y a une différence entre les personnes qui maîtrisent leur outil de travail, qu'on soit propriétaire ou pas, mais en tout cas qui maîtrisent leur processus de travail, et ceux qui sont subordonnés, c'est-à-dire à qui on dit bah, vous allez faire ça aujourd'hui et vous allez faire ça de cette façon-là. Alors, tout le monde trouve des stratégies pour faire autrement et faire un peu plus confortable et des fois plus efficace, parce que forcément le bureau d'études il n'est pas sur le terrain, il ne sait pas ce qui se passe ce jour-là avec cette température, ce climat, ce rapport dans l'équipe. Mais ouais, là, quand on maîtrise son travail, on est toujours beaucoup plus investi, et ça prend beaucoup plus de place aussi dans son identité, et c'est d'autant plus douloureux de ne plus en avoir. Il y a vraiment des gens qui, en l'absence de leur travail, ou s'ils ont plus ça en perspective, ça devient compliqué, et notamment des retraites qui vivent, des jeunes retraités qui vivent très mal la retraite.
Nous touchons à la fin de cette émission. On aurait pu parler de santé, on aurait pu parler d'épanouissement, on aurait pu parler de reconversion tout au long de sa carrière. Nous aurions pu parler d'un milliard de choses autour du travail. Une heure et demie pour aborder ces questions de travail, c'est clairement pas suffisant. Mais on aura quand même produit, pour reprendre vos mots, de la réflexion, de l'échange d'expériences. Et ça, ce n'est pas rien.
On aura bien travaillé.
Mais voilà, on aura bien travaillé au final, tous ensemble. J'ai envie, à notre habitude, de vérifier que personne n'ait rien à ajouter dans cette émission. C'est maintenant ou jamais, avant que nous puissions envoyer le générique de fin, c'est maintenant ou jamais qu'on peut rajouter un mot, un autre, si quelqu'un souhaite s'emparer du micro. C'est tout de suite ou jamais, ou sinon nous poursuivons les discussions, mais alors ce sera hors micro, bien entendu. Eh bien, ça va m'amener à la conclusion de cette émission, cette prise d'antenne numéro 2 dans la nouvelle mouture. Nous nous retrouvons, et ça j'insiste, le 1er mars, ici même, au même endroit, même heure, 1er mars, 21h, en direct sur les ondes de Principe Actif, physiquement en direct de l'espace jeune de la Madeleine. Est-ce que tu te rappelles vous rappelez du thème de la prochaine ou pas, ou on l'a pas déterminé encore? On en a dit ou pas? Oh, je sais plus ce qu'on dit. Hein. Mais bon, peu importe, vous verrez bien, ce sera à nouveau un thème de société, un thème d'actualité, un thème en tout cas qui nous touche tous de près ou de près, de toute façon. Ou d'extrêmement près, mais en tout cas ce sera l'opportunité une nouvelle fois de libérer la parole, de donner l'opportunité à chacun de témoigner, d'échanger, de participer, de contester, de pas être d'accord, de faire ce que vous voulez. De toute façon, nous proposons le thème, c'est vous qui avez les idées et la parole, et c'est plutôt pas mal comme ça. Faire tourner les idées, c'est bien ça, voilà, faire tourner les idées, et puis on verra lesquelles on garde, lesquelles on garde pas, et ça c'est chacun personnellement qui le fera, mais en tout cas faisons tourner les idées, et ça c'est une bonne chose. Je voulais remercier cette équipe de l'espace jeune de l'accueil. Merci aux jeunes d'avoir participé d'avoir enrichi les échanges de leur expérience, de leur vision du monde. Je voulais remercier également Olivier Dubois qui pose des questions en ergologie, en tout cas qui nous a apporté des éléments de réflexion. Merci à vous. J'espère. Olivier,
et merci surtout à vous de offert ce micro.
Vous montriez le thé quand vous disiez ce micro, je crois que vous nous remerciez pour le thé.
Aussi, je remercie le thé, il est très très bon.
Mais bon, écoute, prenez les deux, le micro et le thé, c'est parfait. Lionel, vous vouliez ajouter un truc? Ah bah non, il dit non. En tout cas, j'ai remercié les jeunes, j'ai remercié Olivier. Je voulais remercier également à la préparation et à l'organisation de cette émission, l'équipe de l'Espace Jeune, à savoir Charlie, Inès, Anissa et Bayal, qui auront œuvré pour notamment les micro-trottoirs, mais aussi préparer l'intégralité de cette émission. Bien entendu, nous avons eu la complicité de Pierre, qui est toujours présent sur ces émissions-là, et la complicité également d'Anne-Laure. Merci à vous. Et de Lionel, exactement. Ouais, Lionel, pardon.
On lui doit le titre de cette émission, quand même.
C'est tout à fait, ouais, on lui doit à Lionel le titre de cette émission, tout à fait. Vous faites bien de le préciser, très cher. Hein, on lui transmettra, c'est ça? Si Lionel arrivait à prendre la parole plus souvent, oh là là,
ça serait un problème à la gorge en début d'émission.
Ouais, c'est ce... Et puis à la fin, on lâche plus le micro, quoi. Ouais, ça c'est la spécialité. Quand c'est l'heure de parler, c'est pas l'heure. Et quand c'est plus l'heure, c'est maintenant.
Ouais, là, je suis en roue libre.
Je vois bien ça. Mais moi, ça me plaît bien, hein, Lionel. Hein. Bon, vous finissez quand même par poser le micro. Merci à toi, Lionel, d'avoir participé. Oui.
le prochain débat, je vais y participer.
Eh bah ben avec grand plaisir carrément, et on peut même t'inviter à la préparation de ce débat. C'est ça le but.
Partager.
Eh bah ben super. Eh bah ben parfait. Eh bien on a un participant de plus dans l'équipe des débats. C'est avec très très grand plaisir. Bien entendu l'équipe n'est pas fermée. Tous ceux qui veulent participer à la préparation de ces échanges, tous ceux qui veulent proposer des thèmes, tous ceux qui veulent en amont amener de la matière, n'hésitez surtout pas. C'est vous notre matière en fait, hein, finalement. Comme je disais, nous on fait que passer les plats finalement. Voilà. Pour l'équipe de Principe Actif, c'était encore les meilleurs de nos hommes et de nos femmes que nous avions au contrôle. C'était l'ami Vinci qui a œuvré également, l'ami Jean-Jean qui a participé, et bien entendu l'exceptionnel Monsieur Pignon.